Bonjour, donc, je suis doctorante à Biogéco, donc je suis en première année et je travaille avec Annabelle Porté sur les arbres invasifs. Donc là, je vais vous faire une présentation plutôt ciblée sur une méthode de lutte, donc plutôt technique et pas aussi large que le sujet des invasions biologiques. C'est plutôt ciblé. Donc c'est une étude qui a été faite sur l'érable Negundo et je vais vous montrer des résultats d'études en relation avec la physiologie et aussi une étude expérimentale que nous avons mis en place pour tester une méthode de lutte contre cette espèce. Donc l'érable Negundo c'est une espèce invasive, une espèce d'arbre invasive en Europe. Donc elle a un feuillage vert clair. C'est une espèce qui pousse très rapidement. On a des individus mâles et des individus femelles d'un côté, ce qui en fait une espèce dioïque. C'est une espèce aussi qui produit beaucoup de graines, qui peuvent être dispersées par le vent ou par l'eau. Et c'est aussi une espèce qui a la capacité de rejeter, comme vous pouvez le voir sur cette photo, à partir de la souche, une fois qu'on a effectué une coupe au niveau du tronc, par exemple. Donc c'est une espèce aussi qu'on va trouver surtout dans les milieux urbains, suite à des plantations dans les parcs, les jardins et le long d'avenues. Donc l'érable Negundo est originaire d'Amérique du Nord. Il vient notamment des États-Unis et du Canada, comme vous pouvez le voir sur la carte. Il a été introduit en France, enfin en Europe, durant le 17e et 18e siècle. Et c'est maintenant une espèce invasive dans toute l'Europe. Donc c'est une espèce qui s'est échappée des milieux urbains pour envahir des habitats naturels, notamment les forêts alluviales et les zones humides, c'est-à-dire plutôt les bords de rivières. Donc localement, on va la trouver en position intermédiaire, c'est-à-dire entre les espèces de fin de succession et les espèces pionnières. Mais on peut aussi la retrouver en bord de rivière, sur les berges. Du coup, c'est une espèce qui a de nombreuses conséquences. Notamment, on a recensé des impacts négatifs vis-à-vis des espèces d'arbres natifs. Donc comme vous pouvez le voir sur ce graphique d'une étude récente de Lamarck, on voit que lorsque la densité d'érable introduit, non natifs dans un milieu augmente, on va avoir également par conséquence une diminution de la densité des espèces d'arbres natifs. Et c'est aussi une espèce qui domine ces espèces natives, ces arbres natifs. Donc par exemple au niveau de la fréquence, on va voir que quels que soient les stages, la structure d'âge, l'érable Negundo, représenté par les barres noires, va être largement supérieur en fréquence par rapport aux autres espèces d'arbres natifs. Et ensuite, localement, on a aussi pu recenser des impacts écologiques et économiques, notamment un effondrement des berges de rivière associé à la présence de l'érable Negundo sur nos berges. On observe aussi une diminution du nombre de nids dans les érables Negundo et aussi un changement d'espèce, un changement de la composition des espèces, c'est-à-dire que l'érable Negundo va remplacer progressivement nos espèces d'arbres natifs, notamment le peuplier ou l'aulne, et on va aussi le retrouver dans des milieux naturels protégés comme les zones Natura 2000. Donc ça pose aussi un petit problème à ce niveau-là. Donc on a essayé de trouver une méthode pour contrôler l'établissement de l'érable Negundo dans ces milieux naturels. Et on voulait savoir par quels moyens on allait pouvoir essayer de l'éliminer et de lutter quoi, contre cette espèce. Donc on a d'abord fait une revue de quelques articles qui traitent des méthodes de lutte sur les espèces invasives, sur les arbres invasifs. Et on a pu voir que c'est surtout les méthodes chimiques et biologiques qui nous permettent d'obtenir des meilleurs taux de mortalité, donc d'élimination d'espèces invasives, et notamment pour les espèces qui rejettent de souches, comme beaucoup d'espèces d'érables. C'est aussi ces deux techniques qui marchent très bien. Sauf qu'en France, l'introduction de pathogènes, de parasitoïdes ou bien de champignons, mais aussi l'utilisation de produits chimiques est interdite dans les milieux naturels protégés. Donc on a plutôt choisi d'essayer de tester des méthodes mécaniques pour qu'ils soient faisables facilement et qu'ils ne soient pas trop coûteuses pour les gestionnaires locaux. Donc on a installé trois sites expérimentaux dans le sud-ouest de la France, donc à Bruges, Salles et Marestin. Donc ce sont des sites situés le long de cours d'eau. Et on a suivi cette expérience pendant 2 ans. On a fait des mesures sur les 2 années qui ont suivi la mise en place de l'expérience. Donc le choix des sites s'est fait sur le critère de maximum d'érables negundo présents dans les forêts, dans ces forêts, dans ces zones-là. Donc on a choisi 3 sites où il y avait environ plus de 70% d'érables negundo présents dans la composition spécifique. Et donc sur chaque site expérimental, on a installé et on a 4 méthodes de lutte. Donc la première méthode, c'est la coupe à ras. Comme vous le voyez sur cette photo, on a coupé une certaine surface d'érable negundo à 20 cm au niveau du sol. On a ensuite fait une coupe haute à environ 1 mètre au niveau du sol. On s'attendait à ce que... On a choisi de tester aussi cette technique car la coupe haute à 1,30 m est plus facile pour les gestionnaires au niveau technique parce que ça permet, il y a plus d'aisance à couper à 1,30 m qu'à couper à 20 cm du sol. Donc la troisième technique, c'est l'écorçage. Donc là, le but, c'est d'éliminer les tissus du phloème et du coup, on empêche la distribution des sucres produits par les feuilles d'être redistribués à l'ensemble de la plante. Et donc, on va épuiser l'arbre petit à petit en le privant de nourriture. Et enfin, la quatrième technique, c'est une coupe à ras et avec une insertion de juglone. La juglone, c'est une substance naturelle allélopathique qu'on va trouver dans les feuilles de noyer et qui a des propriétés herbicides. Notamment, il a été prouvé que cette substance stoppe la respiration cellulaire. Donc on s'attendait notamment avec cette technique à ce qu'il y ait une limitation au niveau du nombre de rejets, parce que vu qu'on fait des coupes à blanc comme ça, on sait qu'on va avoir une production forte de rejets, donc potentiellement on sait que la plante va pouvoir repartir sous une nouvelle forme. Donc sur ces 4 méthodes, on a fait des mesures de mortalité et de vitalité. Alors au niveau de la vitalité, on a mesuré le diamètre des 5 plus gros rejets. On voulait voir s'il y avait des différences entre les traitements. Et on a obtenu ceci. Donc au niveau des taux de mortalité, après 2 ans, on a pu voir que c'est surtout l'écorçage qui nous permettait d'avoir des taux de mortalité largement supérieurs. Donc on en a déduit que ça paraissait être une méthode plutôt efficace pour lutter contre l'érable negundo. Et il a également prouvé que c'est l'écorçage qui nous permet d'avoir des rejets qui ont un plus petit diamètre. Donc ce qui prouve également un épuisement progressif de la plante. Donc on s'attend vraiment à ce que la plante va mourir petit à petit d'épuisement. Donc on peut en déduire que dans les milieux naturels, pour lutter contre l'érable Negundo, mais surtout pour le contrôler, parce qu'on ne peut pas vraiment l'éradiquer à grande échelle, l'écorçage est efficace sur les arbres adultes. Mais cependant, il faut être vigilant vis-à-vis de l'application, il faut y revenir. C'est quelque chose qui doit se faire de façon répétée et qui doit être surveillé. Parce que comme vous pouvez le voir sur cette image, il y a des cicatrices qui peuvent apparaître autour du tronc, là où l'écorçage a été effectué. Et c'est des cicatrices qui ont reconstruit les tissus du phloème, donc qui repermettent la circulation de la sève. Donc il faut continuellement et de façon répétée, à peu près tous les ans, essayer de surveiller ces arbres pour pas que ces cicatrices se mettent en place et pour pas que l'arbre reparte depuis... se remettre à vivre. Donc c'est plutôt une méthode qui va être appliquée à petite échelle parce que l'écorçage c'est quand même assez long et un peu fastidieux, mais ça peut être une bonne méthode localement. Il faut aussi prendre en compte le fait que c'est un arbre qui produit pas mal de graines, donc il faut être conscient du fait d'enlever ces graines, de les éliminer. Sinon, on va avoir de la germination et des pluies de graines. Mais par contre, on ne peut pas contrôler la dispersion la dispersion sur de larges distances. Parce qu'une graine, une fois qu'elle est partie, des fois, elle peut aller loin. Il y a aussi, en fait, il faut aussi prendre en compte le fait que l'érable Negundo est une espèce très plastique vis-à-vis de la lumière et des nutriments. Donc comme on peut le voir sur cette étude, lorsque on a une forte disponibilité en nutriments et une ouverture du couvert forestier, on va voir que cette espèce invasive va dominer les espèces natives. Donc il faut être vigilant quand on va avoir affaire à une ouverture du couvert forestier, notamment après une perturbation naturelle comme une tempête ou après une coupe. Une coupe pour la production de bois et la récolte de bois. Donc la technique d'écorçage, c'est une technique qui est plutôt qui va être plutôt pour éliminer localement et contrôler l'érable Negundo. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment faire à grande échelle et qui ne va pas nous permettre d'éradiquer totalement cette espèce en Europe. Mais c'est une technique qui marche assez bien, mais il faut quand même prendre en compte le moment où on choisit de l'appliquer, et notamment le fait que c'est quand même une espèce plastique vis-à-vis de la lumière et des nutriments disponibles. Voilà, merci. Non, pas vraiment. Il n'a pas vraiment d'intérêt. C'est un arbre mou, un peu souple. Déjà, on le trouve en bord de rivière. Souvent, ce ne sont pas ces espèces qui sont hautement valorisées. Donc, il n'a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est ornemental, en fait.
Voilà. Quand on fait une couche à la masse de haut, les rejets font des graines de combien de temps ?
Je ne sais pas, mais ça, c'est quand même... De toute manière, c'est pas une bonne technique parce qu'on va quand même, on va avoir des rejets et donc on va. Enfin, je comprends pas votre.
Entre le procédé qui consiste à affaiblir un arbre adulte,
oui.
Et après continuer à faire des graines,
oui.
Et le procédé qui consiste à les couper,
d'accord.
Quand ils sont encore jeunes,
oui.
Mais du coup, ne va pas faire de graines.
Oui, effectivement. Effectivement, ça aurait pu être testé, ouais. Parce que c'est quand même rapide de les couper comme ça en 1m30. Voilà, surtout quand ils sont jeunes. Mais là, c'est pour des arbres quand même plus gros, quand même, ils grossissent très vite. Alors, c'est vrai que quand on a un arbre, on va dire, intermédiaire, jeune, oui, ça peut être une technique intéressante, parce que c'est avant qu'il ait fait des graines et avant qu'il en fasse. Mais c'est là, on voulait vraiment trouver une technique pour des arbres adultes, donc qui déjà produisaient des graines.
D'autres questions ? La durée de vie des graines ?
Je sais pas vraiment, mais je pense que ça tient bien. Je pense que c'est des samars, ça vole bien. Je sais pas.
Pourquoi avoir choisi la jugeau pour la piscine
Parce que.
Ça n'avait pas beaucoup de chance de marcher.
Alors. La juglone, c'était parce que c'était facile d'en obtenir vis-à-vis des feuilles de noyer, de la pâte de noyer. Mais pour nous, on sait que ça n'a pas trop marché parce qu'on suppose que c'est au niveau des quantités qu'on a appliquées, en fait. Parce que sur d'autres espèces, ça marche quand même très bien, sur le fraisier, sur...
Oui, mais le fraisier, c'est pas énorme.
Oui, oui, je suis d'accord.
Et la juglone, ça avait peu de chance de marcher parce que c'est un produit extrêmement volatile.
D'accord. Ok,
par contre,
ça je savais pas.
Par contre, vous avez plein d'herbicides naturels qui sont des substances non volatiles.
Oui, ben, je pense que la juglone, c'était au choix.
Il y a plein de produits de
d'accord.
Qui auraient davantage de chance de marcher.
C'est vrai que je le savais. Ah oui, d'accord. Parce que nous, on pensait que c'était au niveau de la quantité. Ah oui, d'accord. Nous, on pensait que c'était au niveau de la quantité appliquée, qu'on n'en avait pas mis assez, mais... D'accord.
Ça se valorise extrêmement facilement.
Effectivement, je pense que si on avait su ça, on n'aurait peut-être pas testé cette molécule.
Est-ce que c'est la problématique, c'était aussi un milieu naturel ou c'est relativement proscrit d'utiliser des substances comme ça?
Oui, mais là, c'est une substance naturelle, donc c'était pas interdit en fait. La juglone est naturelle. Et...
C'est une substance allélopathique et bien.
Oui, voilà.
Mais qui a peu de chance de marcher sur les arbres.
Oui, c'est sûr que l'allélopathie aussi, ça a ses conséquences à côté aussi, donc par infiltration, c'est vrai. Avec des substances naturelles, même si ce sont des substances naturelles. Non, c'est sûr, je suis d'accord. Parce que quand on fait de la lutte biologique, on introduit des substances naturelles aussi, et c'est pas... En tout cas, ça n'a pas marché.
Vous avez d'autres questions ?
Oui. J'avais une question sur les cotonniers, enfin sur Baccharis saminifolium.
Oui,
je vois qui c'est. Vous demandez là s'il y a des luttes prévues, s'il y a des.
Non, pas pour nous. Pas pour nous. Je ne crois pas qu'il y en ait en Gironde, à moins que je me trompe. Il y en a en Gironde. Je sais qu'il y en a dans le Pays Basque énormément. Mais.
Moi, ça m'intéresserait de votre équipe.
Mais en fait, on est très intéressé par tester des méthodes de lutte, mais on manque de financement en fait. Du coup, on fait beaucoup de recherches théoriques. On aimerait faire de la recherche appliquée, mais.
Ouais. À mon avis, il y aurait des possibilités de financement.
Oui, alors on a essayé, enfin, on a potentiellement obtenu un petit peu d'argent de l'agence de l'eau. On va essayer de tester des méthodes de lutte sur du robinier, parce que ça aussi c'est quand même un problème. Là, un gros problème aussi.
Après, si vous avez un partenaire socio-économique fort là-dessus, vous pouvez prétendre à l'appel de transfert de l'eau de la Lescott aussi. Sur des méthodes appliquées, développement de méthodes pour les partenaires, pour les gestionnaires, c'est tout à fait légitime.
D'accord, je ne savais pas. Donc ça, c'est en collaboration avec les gestionnaires.
En collaboration avec les gestionnaires,
ah, oui. Ça, c'est intéressant. Oui.
Il faut que c'est le labo qui répond à l'équipe, en partenariat fort avec le gestionnaire qui s'engage aussi à collaborer dans le projet, à tester, à...
Ah, oui.
Voilà, et là, c'est
que, chose qui va être utile. Du coup, je suis allée à ce colloque à Montpellier, et c'est vrai que ça a été une forte demande de quelques gestionnaires qui étaient là, que de tester, et je demande que ça, quoi, tester, et notamment au niveau des arbres, parce que pas beaucoup de choses sont faites au niveau des arbres.
appuyer à la dimension de la ligne.
Ah oui. Oui, parce que des collaborations chercheurs-gestionnaires, je pense que ça peut être très intéressant.
Et les partenaires ne manqueront pas.
Oui, je pense qu'ils seraient contents de participer aussi. Ouais.